Il est 6h57 sur Europe 1. Très bon réveil, merci de votre fidélité au 5-7. Je vous retrouve demain, 5h du matin, pour démarrer la journée ensemble. Et je vous laisse avec Mathieu Béliard pour le 7-9. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien. Bonjour et merci Sébastien. Jeudi 3 décembre 2020, vous êtes sur Europe 1 et vous écoutez Le Monde Changé. Bonjour à toutes et à tous.
Au revoir.
Et au revoir Valérie Giscard d'Estaing. Europe 1 vous révélait tard hier soir la mort de l'ancien président de la République à l'âge de 94 ans. Un président qui s'en va et c'est une page de l'histoire de France qui se tourne. Et pourtant, vous allez comprendre ou vous rappeler de ce que la France de Giscard impacte notre vie d'aujourd'hui. L'IVG, bien sûr, le divorce par consentement mutuel, la majorité à 18 ans, la construction européenne, bien sûr, mais aussi les chocs pétroliers, le début du chômage en France, la fin des 30 Glorieuses. Hommage à Valéry Giscard d'Estaing, 40 ans après la fin de son mandat, et cette au revoir archive aussi aujourd'hui. Tiens, on l'a beaucoup comparé à Emmanuel Macron. La jeunesse, le dynamisme, la réforme. Écoutez les conseils que donnait Valéry Giscard d'Estaing à l'actuel président lors d'une de ses dernières interviews, c'était sur Europe 1, il y a 2 ans, au micro de Nikos Aliagas.
C'est un pays qui est assez difficile à réformer, et si on veut obtenir des résultats, il faut parler clairement. Il faut garder totalement son calme. La polémique interdit la réforme.
La polémique interdit la réforme. Le président de la réforme, nous en parlerons avec Nicolas Bétou. Ce matin, nous sommes à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Nous sommes à Autun, dans le Loir-et-Cher, où vivait et où s'est éteint Valéry Giscard d'Estaing du Covid-19 hier. Sur Europe 1 ce matin, Louis Giscard d'Estaing, le fils de l'ancien président, au micro de Sonia Mabrouk, c'est à 8h15. Et puis évidemment, Catherine Ney dans le journal à suivre, Jean-Pierre Elkabbach, les hommages multiples. L'académicien Valéry Giscard d'Estaing, écoutez ce qu'il disait quand à 78 ans, il a été reçu à l'Académie. À mon âge, l'immortalité est devenue une valeur refuge. 6h59. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo sur Europe 1.
Oui, avec
bonjour
le
Laurent.
Temps. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je suis avec un temps qui, dans l'ensemble, est un temps très agité et perturbé. Ça y est, nous entrons dans une période de pluie qui va durer pratiquement jusqu'à en début de semaine prochaine. Et nous allons vivre, alors la pluie elle est là déjà sur toute la façade atlantique, sur la région parisienne, elle arrive sur les pays de la Loire, le centre, le Morvan, cet après-midi toute la Bourgogne, l'Auvergne, le Midi-Pyrénées, enfin bref, pratiquement tout le monde aura droit à son passage pluvieux et même à des passages pluvieux assez longs, excepté provisoirement le Piémont pyrénéen, le bassin méditerranéen, la Franche-Comté, les Alpes et la Corse, où nous aurons là, et même l'Alsace, où nous aurons là un temps, disons, dans l'ensemble, assez sec. Les températures maximales entre 5 et 13 degrés, et les températures de ce matin entre 2 et 7.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez Le Monde Changé. Il est 7h.
Je viens ce soir vous dire très simplement au revoir.
C'est sans doute le revoir le plus célèbre de tous, celui de Valéry Giscard d'Estaing en 81. Hier soir, l'ancien président est mort entouré de sa famille dans sa propriété du Loir-et-Cher. Nous serons à Autun dans un instant. Catherine Ney viendra nous rejoindre pour nous raconter le parcours de ce grand nom de la vie politique arrivé jeune aux plus hautes fonctions. On reviendra aussi sur les réformes prises à l'époque et qui ont encore un retentissement aujourd'hui. L'Europe, l'avortement, un président qui a dû affronter une déflagration économique à cause du choc pétrolier. Et puis c'est une annonce très attendue dans la journée, la stratégie vaccinale du gouvernement. Elle s'appuiera sur des professionnels de terrain, les généralistes.
Juste après ce journal, le bras de fer est lancé entre Bruno Le Maire et les assureurs, l'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouette. Neymar fait la pluie et le beau temps à Paris. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est Europe 1 qui vous l'a annoncé hier soir. Valéry Giscard d'Estaing est mort à 94 ans dans le Loir-et-Cher. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes devant la propriété familiale à Autun, près de Tours.
Oui, dans cette bâtisse en pierre lovée au fond d'un petit bois et dont le portail en fer forgé représente une immense tête de serre. C'est là que VGE s'est éteint, entouré de ses proches. Un décès des suites du coronavirus, précise sa famille. Son état de santé s'est vite dégradé après 2 alertes, 2 hospitalisations. La première mi-septembre à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. Il souffre alors d'une légère infection au poumon. Il ressort après 3 jours de suivi, mais dimanche soir, c'est au CHU de Tours qu'il est de nouveau pris en charge au service de cardiologie. Avant avant de retourner dans cette propriété pour ses derniers instants, là où il s'était précisément confiné. En toute discrétion, c'est aussi comme cela qu'il souhaitait être enterré. Sa famille a fait savoir que ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale.
Jean-Sébastien Soldaini en direct d'Auton pour Europe 1.
L'une des images marquantes qu'on retiendra de Valéry Giscard d'Estaing, c'est son « Au revoir », bien sûr, si souvent imité. Le 19 mai 1981, il vient de perdre la présidentielle face à François Mitterrand.
Il se lève, il quitte lentement le studio, en direct, laissant derrière lui un fauteuil vide. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment précis? Pourquoi cette dramaturgie? Il l'expliquait sur Europe 1 en 2011.
J'avais écrit un texte pour dire adieu aux Français. Ce texte, je l'écris moi-même à la main. Bon, je ne sais pas si vous l'avez lu, il est dans mes livres. Je trouve qu'il est assez bon.
Oui,
mais c'était vrai. D'abord, je souhaitais à Mitterrand de réussir. Je souhaitais aux Français d'être heureux, etc. Mais bon, je souhaitais que les choses se passent bien. Mais je leur disais, bon, quand, en ce qui me concerne, je vous dis adieu. Et je n'avais pas vu que la porte qui était dans la salle, c'est une assez grande salle, était assez loin. Et je m'étais dit, comme il faut visualiser, dans le monde de l'image, il faut visualiser le départ. Donc, je vais me lever et puis je vais partir. Mais je n'avais pas vu que ça faisait un trajet si long. Et alors la caméra m'a suivi pendant un long moment, et ça a marqué les gens qui ont vu une espèce de départ un peu tragique, un peu insistant, et ainsi de suite. Et pour beaucoup d'entre eux, ça les a émus, et pour d'autres, c'était un sujet de critique ou de dérision par la suite. Mais ce n'était pas programmé.
Valéry Giscard d'Estaing sur Europe 1 au micro d'Arlette Chabot.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin. Il l'a confié plus tard, Valéry Giscard d'Estaing n'avait jamais imaginé la défaite. C'était l'homme politique à qui tout réussissait, le plus brillant. Et là, c'est le coup de massue. Giscard d'Estaing, Catherine, c'est une carrière qui commence sur les chapeaux de roue.
Oui, l'originalité du parcours, c'est qu'à peine élu le plus jeune député, à 29 ans, du Puy-de-Dôme, il s'est imposé comme un leader, d'abord par sa taille, son assurance à toute épreuve, son ambition affichée d'aller plus haut et surtout sa capacité à rendre limpides tous les sujets les plus complexes. Nommé secrétaire d'État aux Finances à 33 ans, avec Antoine Pinay comme patron, il devient ministre des Finances en titre à 36 ans, autre record, lorsque Georges Pompidou succède à Michel Debré à Matignon. À l'Assemblée, son discours sur le budget devient un must parce que servi par une mémoire d'hypermnésique, il peut parler 3 heures durant, sans notes, égrenant des chiffres, ouvrant des perspectives, et les députés étaient babas d'admiration.
Il a aussi connu des ratés, hein, Catherine.
Oui, celle d'être écarté des finances par Georges Pompidou qui lui imputait le ballotage du général en 65. Et surtout de lui avoir désobéi en maintenant le plan de stabilisation avec le blocage des prix et des salaires alors qu'il lui avait au contraire conseillé de lâcher du lest. Il avait refusé un grand ministère de l'équipement. J'ai été congédié comme un domestique, disait-il alors. Mais ça a été aussi une chance pour lui parce que pendant ce temps, il a créé sa force de frappe, les Républicains indépendants. Il avait compté 44 députés après les élections de 67. Il invente le 8 mai, c'est-à-dire soutien, oui, mais pas trop. Pompidou l'appelait son cactus. Et pour les gaullistes, il était l'ennemi de l'intérieur. À la fin de mai 68, il voulait que Pompidou démissionne. Et en 69, il a contribué au départ du général de Gaulle en conseillant aux Français « Ne votez pas oui au référendum », façon de dire « Votez non ».
De Gaulle parti, Pompidou arrive à l'Élysée.
Oui, il revient dans ses chères finances, rue de Rivoli, où il nous disait « Regardez ». Il regardait par la cour de son bureau et disait « Regardez, c'est là où Louis XVI jouait ». Donc à nouveau, il fascine les députés, réussit la dévaluation du franc de 11,1%, conséquence inévitable des accords de Grenelle de mai 68. Et surtout, il se prépare à succéder à un Georges Pompidou malade. Et en 74, il l'emporte contre Chaban. Et il devient de fait, à 48 ans, le plus jeune président de la Ve République, évidemment, avant Macron.
Merci Catherine. Emmanuel Macron qui justement rend hommage au chef d'État dont le septennat a, dit-il, transformé la France. Nicolas Sarkozy salue un homme qui a fait honneur à notre pays et pour lequel il a éprouvé de l'admiration. Quant à François Hollande, il évoque la perte d'un homme d'État qui a fait le choix de l'ouverture au monde. Ses opposants sont en effet nombreux à rappeler son talent réformateur et toutes les réformes qu'il a initiées entre 74 et 81. Écoutez Jack Lang.
Le président Giscard d'Estaing est à l'évidence une des figures fortes et puissantes de la Ve République. Je retiendrai ce jour des aspects positifs et les avancées vers les libertés, la démocratie, l'établissement du droit de vote à 18 ans, l'IVG avec Madame Simone Veil, et puis surtout, je dirais, la passion européenne. C'est lui qui aura lancé toute une série de réformes qui aujourd'hui encore font vivre l'Union européenne.
Jack Lang, joint par Martin Lange.
Il y a les réformes sociétales, l'engagement pour l'Europe salué unanimement, et puis il y a les difficultés pendant la deuxième moitié de son septennat.
Ah oui, crise économique, crise sociale, c'est une véritable tempête qu'il a dû affronter Emmanuel Duteil et qui a finalement marqué la fin des Trente Glorieuses.
Oui, Valéry Giscard d'Estaing doit gérer les conséquences des deux chocs pétroliers. C'est la fin de l'énergie pas chère, de la montée de l'inflation, du développement du chômage et des déficits. Imaginez, 1974, c'est la date du tout dernier budget excédentaire en France en raison de ces crises. Raymond Barre, son premier ministre à partir de 76, va devoir mener une politique de rigueur pour se coordonner au niveau international. C'est lui qui va créer les sommets annuels des pays les plus riches. Le premier sommet du genre se tient au château de Rambouillet en 1975. Pour lutter contre la stabilité monétaire, il se bat avec son homologue allemand pour mettre en place à la fin des années 70 ce que l'on a appelé le système monétaire européen. Mais Valéry Giscard d'Estaing disait souvent que ce qui le passionnait, c'était la modernisation, c'est-à-dire la préparation de l'avenir. Et ça s'est vu. C'est sous son mandat que la France va s'équiper massivement de téléphone. C'est là que le réseau se modernise. Il accélère aussi le développement du TGV. Confortée par les chocs pétroliers, la France fait durant son septennat le choix du tout nucléaire. Et dans le même sens, c'est lui qui accompagnera le développement de la fusée Ariane.
Merci Emmanuel Duteil. L'Assemblée et le Sénat qui siégeaient au moment de sa mort ont observé une minute de silence. Ce matin, toute la presse salue un destin français et européen, y compris indirectement l'équipe qui, pour illustrer la victoire du PSG contre Manchester United, publie une photo de Neymar qui vient de marquer un but avec ce titre. Le monopole du cœur.
Nous reviendrons bien sûr sur la mort de Valéry Giscard d'Estaing tout au long de cette matinale. Et puis nous vous retrouverons, Catherine Ney, bien sûr, dans les journaux d'Europe 1. On a besoin de vos lumières ce matin. Notez qu'à 8h15, l'invité de Sonia Mabrouk sera Louis Giscard d'Estaing, son fils.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h10 sur Europe 1, la suite du journal, Hélène Zélani.
Jean Castex va présenter tout à l'heure la stratégie de son gouvernement en termes de vaccination. Ce qu'on sait, c'est que les plus fragiles doivent être les premiers vaccinés, pensionnaires des EHPAD, ainsi que les personnes vulnérables qui s'en occupent, peut-être dès la fin du mois ou début janvier, puis au printemps, une campagne plus large pour le grand public.
Bonjour Ève Roger.
Bonjour.
Ce que le Premier ministre doit dire ce soir, c'est d'abord qui va vacciner ces millions de Français ?
Oui, alors l'objectif, c'est de ne pas reproduire l'erreur de 2009 avec la campagne contre le virus H1N1, des vaccins à la chaîne, dans de grands vaccinodromes, échec magistral. Là, le gouvernement va faire l'inverse. Partir du terrain, en particulier des 52 000 médecins généralistes. D'abord, eux connaissent par cœur les patients les plus vulnérables. Ensuite, qui d'autre pour convaincre une personne méfiante de se faire vacciner ? Eux savent manier les mots pour lever les réticences. Illustration avec Jean-Paul Hamon, le président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
Le meilleur exemple, c'est de dire que moi, je vais me faire vacciner, sans hésitation. C'est la même chose quand les gens ont une réticence à l'égard de l'hépatite B. Je leur dis, mais écoutez, j'ai vacciné mon fils, j'ai vacciné mes petits-enfants. N'ayez aucune crainte, j'ai pas envie que ma famille soit malade.
Deuxième question, Ève, où est-ce qu'on va se faire vacciner ?
Alors là, ça se complique singulièrement, surtout avec ce premier vaccin disponible, celui de Pfizer-BioNTech, qui nécessite, vous le savez, de super congélateurs. Une centaine d'hôpitaux vont servir de lieu de stockage, un par département. Mais une fois les vaccins sortis des congélateurs, top chrono, les professionnels de santé auront 5 jours, pas plus, pour les administrer, dans les EHPAD, les cabinets médicaux, dans des salles aussi mises à disposition par les collectivités locales, à domicile ou dans les pharmacies, déjà dans les starting blocks.
Merci Ève Roger. La Grande-Bretagne nous devance, en tout cas, puisque là-bas, la campagne de vaccination va commencer dès la semaine prochaine. Le gouvernement fait un nouveau geste pour aider les secteurs les plus touchés par la crise. 10 jours de congés payés seront pris en charge par l'État dans les entreprises en difficulté, hôtels, restaurants, boîtes de nuit ou salles de sport. Sachez aussi qu'il y a une nouvelle jauge pour l'accueil dans les lieux de culte. 2 sièges entre chaque personne et 1 rangée sur 2. Elle s'applique jusqu'à la prochaine étape du déconfinement, le 15 décembre.
Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien avec nous à 7h40 ce matin, le prix Goncourt des lycéens, avec nous en studio. Il faut savoir que c'est le deuxième prix qui a le plus d'effet sur les ventes, juste après le Goncourt. Jaïli Amadou Amal, pour son roman Les Impatientes, une femme qui raconte et qui combat les mariages forcés, le viol conjugal, la polygamie chez elle au Cameroun. Jaïli Amadou Amal, dans le tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La pression monte sur les assureurs. Le gouvernement estime qu'ils ne font pas assez d'efforts pour soutenir les entreprises les plus touchées par la crise du Covid.
Oui, on a rarement vu ça, mais il faut dire qu'avec cette crise, nous avons basculé dans une économie largement administrée. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient donc de lancer un ultimatum aux assureurs. Il leur demande au minimum de geler les primes que doivent régler les cafés, hôtels, restaurants, alors qu'ils sont fermés. Alors, vous pensiez que les prix étaient libres en France depuis Giscard, et bien que les assureurs pouvaient fixer leurs tarifs librement en fonction de leur calcul du risque, de la concurrence, etc. Et bien, l'histoire est un peu plus compliquée. C'est la crise. L'État tape du poing sur la table et donne donc jusqu'à lundi aux assureurs pour faire un geste.
Sinon ?
Sinon, ils seront taxés. Le Sénat a déjà voté un projet de taxe dite de solidarité qui coûterait 1,2 milliard d'euros aux assureurs. C'est pas rien. Bref, si les compagnies ne font pas un geste pour les hôtels, cafés, restaurants, la taxe sera votée aussi par les députés. C'est brutal. Bruno Le Maire l'a reconnu. Mais il faut dire que les assureurs sont une cible tentante. Dans cette crise, ce sont les banques qui s'en sortent bien. Elles ont plutôt une bonne image. C'était pas du tout gagné d'avance. Elles ont distribué les prêts garantis par l'État très vite. Elles ont accordé des moratoires, étalé des échéances, etc. Bref, elles sont à part aux côtés de leurs clients en difficulté, alors que les assureurs, au contraire, ont plutôt le mauvais rôle.
Pour quelle raison, Nicolas ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu ces bras de fer sur la couverture des pertes d'exploitation de cafés ou de restaurants, où les assureurs ont été accusés de chercher à échapper à leurs obligations. Il y a eu des plaintes, la justice a été saisie, des élus s'en sont mêlés. Bref, ça a ouvert un premier front. Les critiques ont également redoublé quand les assureurs ont demandé à certains clients de signer des avenants à leur contrat pour exclure le risque de pandémie. Puis les assureurs ont aussi été pointés du doigt sur les tarifs des assurances auto qui devraient continuer à augmenter l'an prochain alors qu'ils ont économisé de l'argent sur ces contrats car les gens ont moins roulé, donc il y a eu moins de sinistres. Alors il y a certes une part d'injustice dans ce procès qui est fait aux assureurs. Ils ont toujours été une cible facile, mais leur image s'est dégradée et ça risque de leur coûter cher.
À suivre donc. Merci Nicolas Barré. Il est 7h18. Vous êtes sur Europe 1 et nous retrouvons Vincent Hervouette, le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'héritage ce matin, l'héritage de Valéry Giscard d'Estaing en politique étrangère.
Pour ceux qui l'aimaient, c'est l'Union Européenne avec un Parlement élu, le Conseil des chefs d'État, le serpent monétaire, plus tard le chef-d'œuvre qui devait couronner tout le mécano, le traité constitutionnel. Pour ceux qui ont combattu Giscard, il reste la phrase cruelle de Mitterrand qui moque le petit télégraphiste de Brejnev et puis la campagne des Chiraciens sur les diamants de Bokassa en 81. Avec le recul pourtant, l'héritage de Giscard, c'est son style, sa modernité.
Avec lui, le téléphone devient l'outil ordinaire de la diplomatie.
Oui, les télégrammes des ambassadeurs sont périmés avant même d'être expédiés. Avec le téléphone et le Concorde, les échanges directs deviennent la règle. Par exemple, Giscard invente le G7, le club des pays riches, oui, mais le mot important, c'est club. On partage un idéal, démocratique, libéral, ça va sans dire, mais surtout, on passe un week-end entre chefs d'État, les pieds dans la piscine, on dîne entre soi, sans trop de protocole, sans conseiller, juste le traducteur et le sherpa en coulisses. De Gaulle disait, les États n'ont pas d'amis, Giscard fera tout pour s'en fabriquer. Il invente ainsi avec Helmut Schmidt le couple franco-allemand et il conspire en anglais. Ça aussi, c'est nouveau.
Pour le reste, c'est la continuité avec le gaullisme.
La Légion qui saute sur Colvézi et qui barre la route aux Cubains, c'est la France gendarme de l'Afrique et l'Amérique applaudit. Bokassa, empereur de la Centrafrique, c'est la caricature de cette France-Afrique. Continuité aussi avec la politique arabe, le pétrole, le Liban, les Palestiniens. Et VGE disparaît au moment où ce monde qu'il a connu s'estompe. Les relations personnelles n'ont plus tant d'importance. On l'a vu avec Obama ou Donald Trump avant la Covid et ses vidéoconférences. Le Liban et les Palestiniens sont out. Le couple franco-allemand n'est plus à armes égales. Et le Brexit montre que l'Europe peut être un repoussoir. On en vient finalement à se demander si l'acte majeur de Valéry Giscard d'Estaing en politique étrangère, celui qui a eu le plus de conséquences, n'est pas simplement le regroupement familial.
Vincent Hervouette, l'invention du G7 et ce week-end entre chefs d'État, les pieds dans la piscine, on dîne entre soi sans protocole. C'est sûr qu'aujourd'hui, en visioconférence, ça doit être moins sympa. Merci Vincent Hervouette, il est 7h21. À suivre, retour sur la victoire du Paris Saint-Germain hier en Ligue des Champions face à Manchester United. Neymar, homme du match, mais pas que. L'édito sport de Virginie Fulpin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h24 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le PSG
est presque, presque, en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens sont allés gagner 3-1 contre Manchester United hier soir. Ça veut dire qu'un match nul suffira la semaine prochaine contre Başakşehir pour se qualifier. Pour vous, c'est Neymar, le grand artisan de la victoire. Et le Brésilien a l'art de faire la pluie et le beau temps à Paris, Virginie.
Bah, c'est le propre des grands joueurs, hein, ce pouvoir de faire tout basculer. Et Neymar a montré hier soir qu'il faisait bel et bien partie de cette caste-là, hein, pour ceux qui en doutaient. Quand il est brillant, comme au début du match, il marque et il met le PSG dans le bon sens. Quand il devient transparent, comme au milieu de la rencontre, son équipe se met à la portée de ses adversaires. Et quand il redevient brillant, comme dans le dernier quart d'heure, il offre une chevauchée fantastique et encore un but pour sceller la victoire parisienne. Donc oui, Neymar a fait honneur à son statut hier soir. À lui tout seul, il apporte la lumière et peut embarquer toute l'équipe dans son sillage. Mais quand il est moins bien sur le terrain, c'est le PSG tout entier qui tangue. Le Brésilien s'est encore laissé aller à ses petites crises habituelles, hein, crise d'ego, énervement facile. Il est à fleur de peau, hein, comme un artiste peut l'être. Ses adversaires auraient pu appuyer sur ces faiblesses-là d'ailleurs, hein, mais Manchester United ne l'a pas fait. Et quand on laisse Neymar libre, eh ben, il finit par vous punir tant ses qualités ne demandent qu'à se réveiller. Ouais, c'est le propre des grands joueurs, avec la touche Neymar. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de soirée linéaire et tranquille.
En plus, Neymar a aussi été le plus marqué après le match devant les micros.
Tiens, et si je lâchais une petite bombe comme ça, l'air de rien?
C'est ce que je veux le plus pour prendre du plaisir avec lui encore. Cela pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème. Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain, c'est sûr. Il faut qu'on fasse ça l'année prochaine.
De qui parle-t-il ?
C'est qui lui ? C'est qui ? C'est évidemment Lionel Messi. Allez hop, c'est reparti pour un tour. Place aux interprétations maintenant. Est-ce que Neymar veut encore retourner au FC Barcelone ? Ou est-ce qu'il veut faire venir Messi à Paris ? Vu que l'Argentin a voulu quitter la Catalogne cet été avant d'être retenu de force, je pencherai plutôt pour la deuxième solution. Neymar assume son statut sur le terrain et il en profite pour mettre la pression sur les dirigeants du PSG. On va forcément se poser encore plus de questions sur l'avenir de Kylian Mbappé. Est-ce que le PSG peut jouer avec un trio magique ou est-ce que l'attaquant français va partir ? Oui, Neymar a vraiment l'art de faire la pluie et le beau temps à Paris. Sur le terrain, il a fait revenir le soleil hier soir et juste après, hop, il a déclenché une tempête. Grand joueur et star qui s'assume.
Merci Virginie Fulpin. Et puis tiens, puisqu'on se demande s'il va partir ou rester un autre pour lequel on se pose la même question. C'est un certain Olivier Giroud, Séville, Chelsea hier soir. Tiens, un peu de télé anglaise.
And Giroud scores again, powered in by the Frenchman. Olivier Giroud with four goals.
Four goals. Quatre buts quadruplés d'Olivier Giroud hier sur
un du gauche, un du droit, un de la tête et un pénalty en plus.
Parfait, parfait. Est-ce qu'il va rester à Chelsea ? On aura l'occasion d'en reparler. Merci Virginie Fulpin. 7h27 et comme tous les jours, on retrouve Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais commencer par ces quelques mots d'une poétesse belgo-portugaise que j'adore, je la cite de mémoire. C'est quand même bien une brune, les brunes ne comptent pas pour des prunes.
Compter pour des prunes, mais d'où vient cette expression ?
Au passage, j'embrasse Lio.
Compter pour des prunes, c'est quand on compte pour pas grand-chose, on désigne quelque chose d'inutile ou qui a très peu de valeur.
Au XIIe siècle, Mathieu, Louis VII est chaud comme une baraque à frites pour croiser le fer dans la ville d'Édesse, située actuellement en Turquie. Quand l'abbé de Clairvaux décide d'une nouvelle croisade, le roi de France veut immédiatement prendre la route vers la Terre Sainte. Et ce sera la loose totale. L'empereur byzantin, qui devait lui prêter main forte, se rétracte. Son allié germanique, Conrad III, subit une lourde défaite contre les Turcs. Louis VII refuse l'aide de Raymond de Poitiers. Bref, la croisade, Mathieu, est un désastre total, sauf que l'histoire retiendra aussi qu'une nouvelle variété d'arbres est ramenée à l'occasion de cette aventure. Des vergers de Damas, ils rapportent des pruniers.
Non.
Quelque part, c'est donc qu'ils n'auront pas combattu pour rien, mais pour des prunes. Maigre consolation aux révolutions fruitières, je laisse à chacun se faire son opinion. En Russie, à la place de pour des prunes, on dit pour un merci du tsar. En Allemagne, évidemment, vous connaissez l'expression se battre pour le roi de Prusse, c'est-à-dire qu'on n'a rien en échange. En Grèce, il y a l'expression le trésor était du charbon. Et en néerlandais, vorde katzinkut, pardon pour les orichas, cela signifie, et surtout pour les néerlandais qui nous écoutent, parce que je n'ai pas cet accent, cela signifie compter pour le cul du chat.
Je ne sais pas si je préfère la VO ou la VF du coup. Stéphane Bern, on vous retrouve à 16h pour Historiquement Vôtre.
De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et aujourd'hui encore, plus que d'habitude, on réunit trois audacieux de l'histoire. Le révolutionnaire Danton, à qui l'on doit cette célèbre formule. L'audacieuse danseuse du Moulin Rouge, immortalisée par Toulouse-Lautrec, la Goulue. Et un audacieux plus récent, le Spider-Man français, vous savez Alain Robert, qui escalade les immeubles à main nue. alors qu'il a le vertige. Bref, on vous raconte l'histoire sans filet avec Mathieu Noël dès 16h sur Europe 1.
A tout à l'heure Stéphane.
A tout à l'heure.
7h29, nous sommes avec Laurent Cabrol, c'est l'heure de la météo.
Eh bien si vous aimez la pluie, je serai la bonne poire du jour puisque nous allons vous proposer une belle perturbation qui arrive de l'Atlantique et qui va traverser tout le pays. Et c'est une perturbation que l'on voit déjà sur la Bretagne, la Normandie, le Pas-de-Calais, le Nord, la Champagne-Ardenne et la région parisienne. Elle est déjà présente, elle se meut vers l'Aquitaine et le Limousin, puis les pays de la Loire, le Centre et le Morvan. Bref, peu de gens y échapperont, ou peu de Français y échapperont, c'est plus joli. Cet après-midi, la Lorraine sera concernée, toute la Bourgogne, toute l'Auvergne et tout le Midi-Pyrénées. Bon, que reste-t-il ? Eh bien, il reste le Piémont pyrénéen, le bassin méditerranéen, la Franche-Comté, l'Alsace et la Corse, où là, nous aurons un petit répit avec un temps relativement clair. La preuve, il fait 0 degré à Langres, c'est là où le ciel est clair, 1 à Besançon et Strasbourg. Mais nous avons déjà du 6 à Paris, du 7 à Nantes et du 8 à Bayonne. Voilà pour les températures qui sont les températures les plus basses. Les plus élevées se situeront entre 7 et 14 degrés. Donc, c'est de la pluie, c'est une relative douceur, mais vraiment très relative. Et c'est donc une belle perturbation qui traverse notre pays.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
C'est un personnage qui pouvait vous montrer une familiarité sympathique et puis de temps en temps, il restait dans son monde. Mais c'était un grand homme. Hein.
La mort de Valéry Giscard d'Estaing réveille de nombreux souvenirs ce matin à Chamalières, petite ville du Puy-de-Dôme dont il avait été maire. L'ancien président de la République s'est éteint hier soir à 94 ans, victime du Covid. Valéry Giscard d'Estaing qui avait incarné une rupture avec le gaullisme, il voulait rassembler 2 Français sur 3. Nous y reviendrons avec Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Dans ce journal, bonne nouvelle pour les directeurs de restaurants, hôtels, boîtes de nuit, bref, les secteurs sinistrés par la crise, l'État va prendre en charge leurs congés payés. Alors que la stratégie de vaccination se précise en France, en Grande-Bretagne, la campagne sera lancée dès la semaine prochaine. Et puis cet événement dans la littérature, J.K. Rowling, génitrice de la saga Harry Potter, publie son nouveau livre aujourd'hui intitulé L'Icabog.
Juste après ce journal, un autre livre. Elle est lauréate du prix Goncourt des lycéens avec les impatientes. Jaïli Amadou Amal, invitée du tête-à-tête Europe Matin. Valéry Giscard d'Estaing, la disparition d'un grand réformateur. Pour Nicolas Bétou, c'est l'édito politique juste avant Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Louis Giscard d'Estaing, le fils de l'ancien président, à 8h15. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un chef d'État dont le septennat transforma la France. L'hommage d'Emmanuel Macron cette nuit après l'annonce de la disparition de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président s'est éteint hier soir des suites du Covid à l'âge de 94 ans. Effectivement, son mandat aura marqué un tournant dans la modernisation de la société française avec notamment la légalisation de l'avortement et du divorce par consentement mutuel ou encore l'abaissement de la majorité à 18 ans.
Mais l'histoire de Giscard, elle est aussi intimement liée à celle de Chamalières, petite commune du Puy-de-Dôme. C'est là qu'on vous retrouve ce matin. Jean-Luc Boujon, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Correspondant d'Europe 1 dans la zone, avant d'accéder à l'Élysée en 1974, Valéry Giscard d'Estaing a été maire de Chamalières.
Oui, 7 ans, au début des années 70, et c'est d'ailleurs depuis le balcon de cette mairie le 8 avril 1974 que VGE avait déclaré sa candidature à l'élection. Il tenait beaucoup à son ancrage auvergnat. Les habitants comme Christophe ont d'ailleurs l'image d'un homme très attaché à sa région.
Pour l'Auvergne, il a fait énormément. Ah, il symbolise le désenclavement. Je pense que l'autoroute A75, c'est un peu grâce à lui. Vu le Kenya, c'est grâce à lui, le Zénith aussi. Non, c'est une belle personne, franchement, il a fait beaucoup de bien pour la région.
Voilà, l'Auvergne qui avait été son refuge après sa défaite face à François Mitterrand en 81. VGE, qui est donc ensuite devenu président du Conseil régional d'Auvergne, également 11 fois député du Puy-de-Dôme. Robert, libraire à la retraite, se souvient d'un homme remarquable.
Je l'ai très bien connu, je l'ai eu à dîner chez moi, j'ai été dîner chez lui. C'était un personnage qui avait une très grande culture, mais ambivalent. Quelqu'un qui pouvait vous montrer une familiarité sympathique. Et puis de temps en temps, il restait sur son grand soi, il était dans son monde. Mais c'était un grand homme, hein.
Voilà, un grand homme qui ne venait plus beaucoup ici depuis quelques années, mais qui aura marqué cette ville et cette région. Son fils Louis Giscard d'Estaing est d'ailleurs toujours maire de Chamalières aujourd'hui.
Merci Jean-Luc Boujon en direct des rues de Chamalières ce matin pour Europe 1.
Mickaël Darmon du service politique nous a rejoint en studio. Bonjour Mickaël.
Bonjour, bonjour à tous.
Valéry Giscard d'Estaing, c'est aussi le président qui a incarné les ruptures, les premières de ces ruptures. La première, il a inventé un espace politique.
Absolument, le centre, hein, c'est la première des ruptures avec des démocrates chrétiens et des libéraux. Il sort la vie politique française de l'affrontement entre la droite et la gauche au sortir de la guerre parce qu'il voulait une démocratie apaisée et réfléchie. Valéry Giscard d'Estaing a posé également une autre rupture dans la pratique du pouvoir. Tous les canons de la communication politique, il apprivoise cette télévision qui terrorisait les hommes dans la politique. On se souvient de cette image de son départ, mais il faut aussi se souvenir de son image de son arrivée. Il arrive à pied à l'Élysée en costume de ville.
Et Michael, Valéry Giscard d'Estaing est aussi celui qui invente le Graal politique.
Absolument, rassembler 2 Français sur 3, il invente cet objectif politique que tout le monde ensuite cherchera. À Nicolas Sarkozy, candidat, il donnera un conseil, faites des réformes qui tiendront en une ligne et dont on dira il y a eu un avant et un après.
Michael Darmon, chef du service politique d'Europe 1, les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale.
7h35 sur Europe 1, dans l'actualité. Un peu d'air pour les patrons d'hôtels, de restaurants, de discothèques. L'État va provisoirement prendre en charge leurs congés payés.
Oui, c'était une vraie source d'inquiétude. Les salariés des secteurs sinistrés par la crise ont acquis des congés pendant leur période de chômage partiel. Mais comment faire face à la facture ? Bonne nouvelle, un accord a été trouvé hier soir avec le gouvernement. L'État assurera donc le financement d'une partie de ces jours. À une condition, Olivier Samin, il faudra que ces congés soient pris en début d'année prochaine.
Oui, l'État prendra intégralement en charge jusqu'à 10 jours de congés payés, à condition que ces jours soient pris entre le 1er janvier et le 20 janvier prochain. C'est une aide exceptionnelle, dit le cabinet d'Elisabeth Borne, d'où son périmètre bien délimité. Pourront en bénéficier les entreprises qui ont été frappées par une fermeture administrative pendant au moins 140 jours sur l'année 2020. En clair, les restaurants, les cafés, les discothèques, les salles de sport. Mais aussi, deuxième cas de figure, les entreprises qui, sans faire l'objet d'une fermeture administrative, ont subi une baisse de leur chiffre d'affaires d'au moins 90% pendant l'état d'urgence sanitaire. C'est le cas d'un très grand nombre d'hôtels. Didier Chenet préside le Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Il salue la mesure.
Ce qui me réjouit, c'est que toute la famille des hôtels, cafés, restaurants, y compris les traiteurs, organisateurs de réception et discothèques, vont pouvoir bénéficier de cette mesure. C'était capital pour nous.
Avec cette aide de l'État, les salariés toucheront 84% de leur salaire net pour chaque jour de congé payé pris et l'employeur versera le complément pour atteindre 100%.
Olivier Samin. L'oral de Jean Castex. Cet après-midi, le Premier ministre détaillera la stratégie de vaccination en France. Il a déjà assuré avoir précommandé de quoi vacciner 100 millions de personnes.
Et puis, c'est un événement. Et quand je dis événement, c'est un euphémisme. Hein. Dans la littérature jeunesse mondiale, la sortie du tout nouveau livre de J.K. Rowling, la maman de la saga Harry Potter.
L'Icabog, c'est son titre, rien à voir avec Harry Potter cette fois-ci. Forcément, il y a une attente colossale autour de cette sortie. Victor Dolande a eu la chance de lire ce livre en premier.
Il était une fois un petit royaume appelé Cornucopia, un pays riche où les habitants ne manquent de rien. Le roi traite bien ses sujets, ces derniers sont tous heureux, sauf au nord, dans le territoire des marécages. Là-bas, les hommes n'ont presque rien et surtout, cette contrée répugnante abrite l'Icabog, un monstre qui dévore les enfants et les moutons. Alors pour les fans d'Harry Potter, disons-le tout de suite, il n'y a aucun lien avec la saga des enfants sorciers. Pas de magie donc, mais un conte très politique cette fois. Un roman qui n'aurait jamais vu le jour sans le confinement. Edwige Pasquet, présidente des éditions Gallimard Jeunesse.
En fait, J.K. Rowling l'avait écrit pendant qu'elle écrivait Harry Potter. Et elle le racontait tout le soir à ses enfants. Et puis, elle l'a relégué dans son grenier. Quand le coronavirus est arrivé, elle a souhaité faire quelque chose pour les enfants. Elle a commencé à re-raconter cette histoire à ses enfants qui avaient grandi, bien sûr. C'est certainement le Covid qui a précipité les choses.
Dans ce roman que les enfants peuvent lire à partir de 8-9 ans, on retrouve les thèmes favoris de J.K. Rowling, la famille, l'amitié, l'abus de pouvoir et surtout la dénonciation des fake news. Écrit il y a plus de 10 ans, ce conte renvoie étonnamment à certains maux de nos sociétés actuelles. Et pour le grand retour de J.K. Rowling dans les rayons jeunesse, son éditeur a vu les choses en grand avec un premier tirage de 150 000 exemplaires.
Victor Dolande, et d'ailleurs J.K. Rowling, s'est engagé à reverser l'ensemble des droits de ce roman à des associations venant en aide à ceux qui ont le plus souffert du Covid.
Merci beaucoup Sophie Echen. Il est 7h38.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Louis Giscard d'Estaing, le fils de l'ancien président, c'est sa première réaction en exclusivité sur Europe 1 aujourd'hui. Mais tout de suite, on parlait de littérature jeunesse à l'instant. Tout de suite, je reçois Jaïli Amadou Amal. Elle vient de remporter le prix Goncourt des lycéens avec Les Impatientes. Traditionnellement, c'est la deuxième meilleure vente de l'année après le Goncourt. C'est une femme qui porte un combat féministe fort au Sahel. Son œuvre, sa vie, son témoignage. Le tête-à-tête Europe Matin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
7h41 sur Europe 1. Mariée de force, à deux reprises, mon invitée en a fait un combat. Combat pour elle, combat pour ses filles et pour les femmes de son pays. La polygamie, le viol conjugal, dans le roman de fiction, mais inspiré de faits réels, Les Impatientes. Annoncée lauréate du prix Goncourt des lycéens hier, Jaïli Amadou Amal est sur Europe 1 ce matin.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour Jaïli Amadou Amal.
Bonjour.
Alors vous avez été annoncée lauréate du prix Goncourt des lycéens et à ce moment-là, je me suis demandé ce que ce matin vous vouliez défendre sur Europe 1. Est-ce que c'est votre littérature ? Est-ce que ce sont les causes que vous défendez ? Le symbole de ce Goncourt des lycéens ? Vous menez plusieurs fronts. Qu'est-ce qui occupe vos pensées là, maintenant, ce matin ?
Eh bien, c'est une question assez difficile pour commencer. Mais bon, bien sûr, d'abord la littérature, puisque c'est un prix littéraire. Et quand la littérature peut servir aussi des causes, ça fait deux en un, on dirait ça comme ça.
Alors, puisque vous me dites littérature, Goncourt des lycéens. Déjà, l'an passé, il faut souligner que c'est une œuvre qui dénonçait le viol qui avait été récompensé par ce Goncourt-là. De voir que les jeunes sont sensibles à cette cause.
Pour moi, ça représente beaucoup. C'est tout simplement l'espoir d'un avenir meilleur. Et j'ai été très sensible à ça. Voilà des jeunes qui s'intéressent et qui sont sensibles à la condition des femmes dans le Sahel, mais également aux violences faites aux femmes, qui est quand même, rappelons-le, un sujet universel. Donc je me dis que ça augure des lendemains meilleurs.
C'est un sujet universel et c'est une prise de conscience mondiale. Alors, Les Impatientes, c'est de l'autofiction, mais il y a de votre récit, bien sûr. Vous-même, vous avez été mariée de force à 17 ans avec un homme beaucoup plus âgé que vous. Vous dites, vous expliquez, le mariage forcé, c'est un chantage affectif.
Eh bien, à chaque fois que je vais évoquer ce sujet de mariage précoce et forcé dans un roman, évidemment, ça va toujours se rapporter à moi. Le roman Les Impatientes est une fiction inspirée de faits réels. C'est pas une autobiographie ni un témoignage. Mais c'est tout simplement voilà des faits authentiques vécus par moi, mais surtout par tout mon entourage. Et le mariage précoce et forcé est quand même l'une des violences les plus pernicieuses puisqu'elle entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence. Et donc c'est un sujet hyper important, il faut en parler. Et autour de ça, évidemment, il y a les autres violences faites aux femmes.
La polygamie, le viol conjugal, d'ailleurs vous dites, avec ironie, hein, le viol n'existe pas dans le mariage.
Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est ça. Ça reste encore très très difficile à prouver. Et voilà, dans le cas par exemple de l'héroïne dans le roman, même le médecin qui se rend bien compte que cette jeune fille a été violée et puis son cas nécessite une intervention, mais il continue à dire que ça s'est passé dans la légalité, donc on ne peut pas parler de viol.
Chantage affectif, je reprends cette expression, c'était ma question. Le mariage forcé, ce n'est pas une fille qu'on arrache à ses parents et que l'on installe ailleurs. Expliquez cette notion de chantage affectif.
En fait, ça ne se passe pas par la force ou la brutalité, comme on le voit souvent dans les mauvais téléfilms. Le mariage précoce se passe toujours par la persuasion et par le chantage affectif qui est fait à la fille. Donc, on la persuade qu'on est en train de la marier pour son propre bien. Et on voit sur la logique aussi que tous les parents aiment leurs enfants. Donc, généralement, ce n'est même pas par méchanceté en réalité que les pères ou les mères imposent un mariage à leur fils. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent envisager autre chose, n'ayant pas connu autre chose eux-mêmes. Et donc, c'est pour cela qu'il faut sensibiliser, c'est pour cela qu'il faut parler de ce sujet-là, pour que justement les mœurs puissent évoluer.
Patience, ma fille, patience, d'où le titre. On exhorte ces jeunes filles à la patience. Attends, on sait ce qui est bien pour toi, on sait ce qui va t'arriver, mais la patience, c'est attendre. Quel est le sens de l'attente quand il n'y a rien à attendre ?
Eh bien déjà, ce mot patience, mounial, en langue peul, c'est une valeur de notre culture et de notre tradition. Et donc, c'est répété comme une litanie à chaque fois qu'il y a une circonstance difficile ou douloureuse dans la vie d'une femme. C'est ce qu'on lui dit, patience. Mais quand on dit à une femme patience, ce n'est pas que patience. La patience signifie soumets-toi, accepte tout, laisse-toi même battre par les poux pour le bonheur des enfants. Bref, pense à tout le monde sauf à ta propre personne et surtout sans te plaindre. C'est tout simplement ça que signifie la patience pour une femme.
Et ça n'a pas l'air comme ça pour nos auditeurs qui vous découvrent, mais c'est une bouffée d'optimisme qu'on va prendre avec vous dans un instant. Vous vous battez avec l'association que vous présidez, Femmes du Sahel. Vous encouragez la scolarisation des jeunes filles en Afrique. Vous permettez leur prise en charge parfois parce que précisément vous dites que l'éducation est le levier contre le mariage forcé. Le premier mari de la femme, c'est le diplôme.
Eh bien, le mariage forcé entraînant automatiquement les violences économiques, c'est-à-dire que la fille qui ne termine pas ses études, qui n'a pas un diplôme, qui n'apprend pas un métier, reste dépendante financièrement toute sa vie. Eh bien, pour pouvoir lutter contre ça, il faut tout simplement laisser les filles continuer à aller à l'école. De toutes les façons, on sait bien que l'éducation, c'est le seul moyen de changer le monde. Et par le biais de l'association, justement, nous essayons de parrainer les filles, d'accompagner, de sensibiliser sur les mariages précoces et forcés et sur toutes les autres formes de violences faites aux filles.
Et si on doit parler des femmes africaines en l'occurrence, il y a, on l'entend bien, cet enjeu de la transmission entre les femmes de tous les âges. Combien de générations complices qui permettent à ce système de perdurer? Il faut sensibiliser les mamans, les grands-mères, les tantes à cette question-là.
Il faut sensibiliser tout le monde et il faut aussi sensibiliser surtout les filles. Leur donner les armes nécessaires pour qu'elles puissent savoir comment justement se prémunir de ces violences-là. Et puis, bien sûr, éduquer. Puisque de toutes les façons, pour que les choses puissent changer, il faut que les gens prennent conscience. Les femmes de ma génération, par exemple, qui sont déjà des mamans, doivent prendre conscience de l'importance de changer les choses, de l'importance de laisser leurs filles continuer leurs études, d'apprendre aux filles à se prendre en charge, d'apprendre aux filles à avoir un métier, etc. Et puis, nous accompagnons aussi, bien sûr, avec l'association, les femmes à être autonomes, nous les accompagnons à mieux gérer leurs finances, nous les accompagnons à faire des activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent justement être autonomes, puisque l'indépendance commence par l'indépendance financière.
Jaylee Amadou Amal, merci beaucoup.
Merci de m'avoir reçu.
Lisez Les Impatientes. C'est pas moi qui vous le dis, c'est aux éditions Emmanuel Collat. Ce sont les lycéens de France, prix Goncourt des lycéens. On va le retrouver ce livre sur les étals. Il se vend très bien, le prix Goncourt des lycéens. C'est les deuxièmes meilleures ventes de l'année en général. Et du coup, c'est votre combat qui sera connu de beaucoup de Français. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions en direct ce matin sur Europe 1.
Merci.
7h49.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La disparition de Valéry Giscard d'Estaing, bien sûr, c'est celle d'un grand réformateur.
Oui, de quelqu'un qui a profondément transformé la société française sous tous ses aspects, mais qui n'en a pas été récompensé. VGE, c'est d'abord un prodige d'intelligence, et puis en presque tout, les études, la politique au ministère des Finances, qu'il marque de son empreinte, avant d'accéder, bien sûr, au sommet de la hiérarchie politique française, en devenant à l'époque le plus jeune président élu de l'histoire.
Et c'est là qu'il entame son travail de réformateur.
De la société, oui, parce qu'il avait déjà nettement bousculé la rue de Rivoli, là où était installé le ministère des Finances à cette époque. Il avait ainsi enclenché un vaste mouvement de modernisation de l'économie française, y compris après les secousses de mai 68. Son travail, son poids politique avec son petit parti, les Républicains indépendants, sa capacité aussi à jouer des circonstances en feront l'acteur incontournable des années 70.
Et le voilà élu pour 7 ans, on est en 1974.
Oui, et son septennat sera clairement divisé en deux périodes, celle du mouvement, du dépoussiérage de la société, celle de la relance de l'industrie, hein, avec le TGV, Ariane, l'accélération dans le nucléaire, celle de la construction européenne et puis de la création d'une forme de gouvernance mondiale. Et puis deuxième période, eh ben c'est celle du désenchantement, des gadgets, des affaires face à la montée du socialisme avec François Mitterrand. Une époque marquée par les effets dévastateurs de deux crises pétrolières, avec des faillites, du chômage, un vrai choc économique et, mais oui, le début d'une maladie qui ne nous quittera plus. le déficit budgétaire.
Vous disiez que ce grand réformateur n'en a pas été récompensé.
Ben, preuve en est sa défaite en 81, qui a injustement effacé une partie de son bilan. Mais avec son concept de société libérale avancée, il a imposé un formidable coup de jeune à la France. Majorité à 18 ans, minimum vieillesse, réforme du droit de licenciement, libéralisation des prix, divorce par consentement mutuel, et puis le droit à l'avortement, bien sûr, qui est son œuvre, son choix, même s'il a été porté par Simone Veil. Et puis Giscard, c'est l'homme qui fera vraiment entrer la France dans l'Europe, je veux dire celle avec laquelle nous vivons aujourd'hui.
Élu en 1974, battu en 1981, il y a presque 40 ans. Pour beaucoup de Français, c'est très loin.
Oui, c'est frappant de voir que l'actuel président Emmanuel Macron n'était pas né lorsque Giscard a été élu. Et pourtant, une partie de ce que nous sommes aujourd'hui le doit à ce président jeune qui a gouverné au centre et rêvé de rassembler 2 Français sur 3. Il a impulsé au pays une autre vision de lui-même et il a dessiné une société beaucoup plus en phase avec ce qui nous paraît banal aujourd'hui. Égalité des femmes, vote des jeunes, libération des mœurs, de la famille et une forme de désacralisation du politique avec l'allègement de tout le barnum et de la pompe qui entourait jusque-là la fonction, avec tous les risques que cela comporte. Ben voilà, pour tout ça, l'actuel président de la République est un peu un enfant de celui qui vient de mourir.
Merci Nicolas Bétou. L'édito politique de Nicolas Bétou, tous les matins, juste avant 8h sur Europe 1. Et tous les jours, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, ne manquez pas, à 8h15, Sonia Mabrouk qui interviewe Louis Giscard d'Estaing, le fils de l'ancien président, pour sa première réaction. Et Frédéric Mitterrand voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour Nicolas. Ce matin, bonjour. Je tenais à rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing. Après Chirac, c'est le deuxième président qui, vous l'aurez noté, disparaît sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. 3 si on compte François Hollande. Un grand président nous quitte et c'est vrai que...
Pardon, excusez-moi. Bonjour Mathieu.
Nicolas. C'est Nicolas Barré, notre éditorialiste économique.
Oui, je voulais transmettre mes condoléances à Louis Giscard d'Estaing. J'admirais beaucoup son papa. Rendez-vous compte, Valéry Giscard d'Estaing, il a nommé Raymond Barre Premier ministre, un économiste. C'est lui qui a inventé le couple franco-allemand avec Helmut Schmidt, qui était un peu le Zlatan de la comptabilité allemande. Moi, le président Giscard, ça a toujours été mon idole. J'ai jamais vu quelqu'un dévaluer une monnaie de 11,1% comme ça. Vous savez, quand j'avais 11 ans, c'était mon idole. Je voulais me coiffer comme lui. Manque de chance, j'avais des cheveux. Alors je m'étais rasé le dessus du crâne avec une tondeuse. Et j'avais ramené... Regardez, j'ai la photo là. Regardez, Nicolas. J'avais ramené tous mes cheveux sur le côté. Je vous le dis pas, le succès à l'école. Ils étaient tous jaloux. Non, c'était un grand homme.
Pardonnez-nous, on rit. Nicolas Canteloup, bravo. On vous retrouve à 8h45, la revue de presse, bien sûr. Et Louis Giscard d'Estaing, le fils de l'ancien président de la République, sera au micro de Sonia Mabrouk à 8h15 tout à l'heure, 7h56. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Avec un temps agité, pluvieux, venteux, et ce pratiquement jusqu'à lundi. Aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche seront des journées où les pluies seront majoritaires sur la France. La perturbation qui est arrivée ce matin sur le pays, ou même dans la nuit, est assez costaude. Elle sera là pendant pratiquement toute la journée. Difficile d'espérer des éclaircies, il n'y en aura pratiquement pas, mais nous aurons quelques accalmies dans les pluies. Seule région un peu à l'écart provisoirement, la Franche-Comté, l'Alsace, la Corse et le bassin méditerranéen, mais partout ailleurs, prenez de quoi vous abriter. L'impair passe et gagne, température maximale entre 7 et 13 degrés.
Merci beaucoup Laurent.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Mesdames, Messieurs, meine Damen und Herren, Signore et Signori, si nous réussissons, vous pourrez vous séparer et revenir chez vous en ayant le sentiment d'avoir contribué à écrire un chapitre nouveau de l'histoire de l'Europe.
Un Européen toute sa vie et même bien après son départ de l'Élysée, ici en 2002, il appelait à une union plus forte pour les citoyens. Valéry Giscard d'Estaing, emporté par le Covid-19 au bout d'une vie de 94 ans. Retour sur ce destin exceptionnel, un président modernisateur de la société française, un littéraire, un amateur d'art et de sciences. Nous allons bien sûr réentendre sa voix et nous sommes en direct dans ce journal avec Jean-Pierre Elkabbach qui connaissait l'homme derrière le micro et avec Catherine Ney qui a suivi toute sa carrière politique. Et
juste après ce journal, l'interview politique de Sonia Mabrouk avec ce matin Louis Giscard d'Estaing, le fils du président avec nous sur Europe 1, c'est à 8h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous sommes en 1967, c'était il y a 53 ans, et à ce moment-là, ce n'est même pas Pompidou ni De Gaulle, mais De Gaulle qui est au pouvoir, mais le jeune Valéry Giscard d'Estaing se voit déjà au sommet de l'État.
D'abord, il y a une chose que je trouve très curieuse, c'est tous ces hommes politiques français qui n'ont pas d'ambition. Cela m'inquiète, car ils ne doivent pas être très sincères. Il n'y a personne qui, entrant à l'école de Saint-Cyr, n'ait un jour l'idée de commander les armées françaises. Il n'y a personne qui, dans une entreprise, ne souhaite et n'envisage plus ou moins d'en être un jour le directeur ou le directeur général. Il n'y a personne à Europe numéro 1 qui ne souhaite d'en devenir un jour le rédacteur en chef. Donc quand on est dans une filière, il est tout à fait naturel, en effet, d'envisager les étapes successives et, lorsqu'on est honnête, les plus hautes.
Et c'est sur Europe numéro 1, hier soir, que vous avez appris la mort de l'ancien président de la République. Jean-Pierre Elkabbach, bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent tellement bien. Grand intervieweur de cette radio. Comment était-il, Valéry Giscard d'Estaing, en tant qu'interviewé ?
D'abord, c'est grâce à cette ambition justifiée dont il vient de parler qu'il a obtenu ce qu'il voulait, l'Élysée. Valéry Giscard d'Estaing, pour moi, c'était d'abord une allure, un ton, un style qui tranchait avec toute la grisaille qu'offrait la politique de l'époque. Et c'est un grand réformateur, et j'ai insisté à des tas de décisions qui ont été prises. Il intimidait, c'était une intelligence fulgurante. Il avait le sourire séducteur et affable, la parole bienveillante, mais un regard, je vous l'assure, assassin comme un laser qui transperçait. Il désarçonnait les questionneurs, parce qu'avant les questions, il les devinait et il jugeait. Et je peux vous assurer qu'il m'était tellement mal à l'aise qu'à chaque interview, on avait presque, en tout cas moi, presque la certitude que je jouais ma vie. Et je n'étais pas le seul dans ce cas. Et la naissance de Valéry Giscard d'Estaing, j'entends les témoignages, ne date pas de son élection à l'Élysée, évidemment. Il y avait les années 65-70, il soutenait le général de Gaulle, mais avec un célèbre « oui, mais », et il dénonçait l'exercice solitaire du pouvoir, c'était à l'époque un sacrilège, avant de devenir la bête noire des gaullistes. Je l'ai vu affronter dans des débats véhéments à l'Assemblée nationale, Georges Pompidou qui était Premier ministre, alors que lui, Giscard, appartenait à la majorité. Et les débuts de son septennat, comme Catherine Ney peut le raconter, les témoins, furent éblouissants et riches de décisions marquantes, parce que il apportait un souffle nouveau à une société qui avait besoin de rompre avec de lourdes traditions.
Vous parlez de ce souffle, Jean-Pierre Elkabbach. On est assez frappé ce matin de lire sous la plume de trois de ses successeurs une référence à sa grande intelligence. C'est ce qu'écrit les mots de Nicolas Sarkozy cette nuit. Emmanuel Macron rappelle que Valéry Giscard d'Estaing était polytechnicien et énarque. François Hollande déclare qu'il était conscient de sa grande intelligence. Jean-Pierre Elkabbach, c'est quelque chose qui était frappant quand vous l'aviez en face de vous ?
Absolument, absolument. C'est sa dimension intellectuelle et culturelle qui, en même temps, avait inspiré les grandes décisions ou ses intuitions avec une clairvoyance sur le long terme. Je ne veux pas revenir, mais ça nous avait marqué le droit des votes accordé aux jeunes, un ministère des droits de la femme avec François Giroud, Simone Veil, mais il y avait aussi les deux rapports, Simon Nora et Alain Menck, sur déjà l'informatique et le numérique et sur les sciences de la vie. Il y a eu aussi l'ORTF, cassé en trois sociétés autonomes pour donner un peu de respiration et de souplesse aux services publics. Je ne veux pas insister sur l'Europe, les conseils européens qu'il a inventés, les sommets du G7. Finalement, la désaffection est venue peu à peu d'une opinion qui était devenue de plus en plus sévère avec lui, parce qu'il y a eu le chômage, le plan de rigueur de Raymond Barre, etc. Mais je veux ajouter, la cassure, c'est l'affaire Bokassa.
Oui.
Bien exploité à
les diamants.
L'affaire des diamants, que lui aurait offert Bokassa, il supportait mal, ou pas du tout même, qu'on parle devant lui des diamants de Bokassa, même ses proches n'osaient pas le faire. Je peux rappeler que c'est Alain Duhamel et moi qui lui avons posé la question qu'il ne voulait pas entendre. Et le 21 mai, là c'est un témoignage tout à fait personnel, le 21 mai 1981, après la passation de pouvoir à François Mitterrand, il quittait l'Élysée encore à pied, conspué par une foule qui était hostile. Et bien cinq jours après, le 26 mai 81, il acceptait de nous recevoir chez lui, Alain Duhamel et moi. Au bord des larmes, il comprenait ni sa défaite, ni cette rupture avec les Français. Il nous avait confié son regret de ne pas avoir nommé Simone Veil Premier ministre avant les élections. Et il ne comprenait pas comment lui, si bien accueilli et admiré en 1974, finissait mal aimé et rejeté 7 ans après. Et je pense, dernière chose, qu'on ne doit pas retenir, on aurait tort de ne retenir que l'image de son départ. Adieu, un adieu qui voulait être surtout un au revoir et à bientôt. Toutes ses tentatives de retour échouèrent, ils lui laissèrent une blessure, tous les témoignants peuvent le dire, une blessure jamais guérie. Désormais, Valéry Giscard d'Estaing entre à son tour dans notre histoire, et cette fois je suis persuadé qu'elle sera plus juste, cette place, que ses contemporains.
Merci, merci Jean-Pierre Elkabbach. Quel plaisir de vous entendre sur Europe 1 ce matin.
On va faire un autre retour dans le temps. Cette fois-ci, nous sommes en 1981, dans l'entre-deux-tours d'une présidentielle, à nouveau entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Il y a cette scène dans le documentaire VGE, le théâtre du pouvoir. Giscard est informé du fait que Jacques Chirac manœuvrerait contre lui. Il décide d'en avoir le cœur net en appelant lui-même la permanence de campagne de Jacques Chirac en se faisant passer pour un sympathisant.
Alors, j'ai eu une idée un peu bizarre, hein. Je me suis dit de faire l'expérience moi-même. J'ai appelé. Alors évidemment, c'était un peu spécial. J'ai dit, voilà, j'appelle parce que je suis troublé. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous me conseillez de faire. Ah bon? Ah bon? J'ai dit, voilà, moi, je m'apprête à voter pour Giscard parce que... Ah non, 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 non. J'ai dit, quand il ne faut pas voter... Ah, surtout pas. Ah oui, non, non, surtout pas ça. Puis j'ai raccroché. Mais ça m'a fait une espèce d'impression humaine très, très forte, hein, de l'entendre.
Incroyable, cette archive. Vous restez bien sur Europe 1, il est 8h08. Dans un instant, la trahison de Chirac avec Catherine Ney. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Et on entendait il y a un instant cette scène incroyable racontée par Valéry Giscard d'Estaing lui-même, des coups bas parfois en politique et notamment ce second tour en 1981 où Jacques Chirac aurait fait appeler à voter pour François Mitterrand et non pas pour Jacques, pour VGE. Bonjour Catherine Ney.
Bonjour.
Grande voix d'Europe 1 bien sûr. Cette rivalité entre Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, ça a duré pendant des décennies.
Ah oui, mais enfin, il y a eu une grande période d'entente entre eux. Quand Jacques Chirac était le secrétaire d'État au budget du ministre Valéry Giscard d'Estaing, il était en admiration devant cet homme qu'il jugeait si intelligent. Il était presque prêt à se mettre à son service. Et puis, quand Pompidou est mort, la haine de Chabanc qui animait le couple Juillet-Garot et lui-même, qui était manipulé par ce couple infernal, a fait qu'il a lâché Chabanc et il a fait... Giscard n'aurait pas été élu sans le concours actif de Jacques Chirac, on se souvient l'appel des 43, enfin, bon, mais après, si vous voulez, Giscard est élu et sa majorité reste le groupe gaulliste. Or, il n'a pas eu le courage de dissoudre pour faire une majorité à lui, et au lieu de cajoler les gaullistes, il aurait pu le faire, au lieu de ça, Pogna, toutes les semaines, racontait qu'on allait les détruire, que Chirac allait être l'instrument de leur défaite, il les traitait comme des chiens, ne les recevait pas, et donc... peu à peu, eh bien Jacques Chirac, Juillet-Garot ont dit écoutez, eh bien, écoutez, c'est le gaullisme, c'est vous qui allez prendre la tête des gaullistes. Et puis après, il y a eu des incompréhensions, des choses. Mais là, je crois ce que Giscard a raté, c'est de se faire aimer des gaullistes, de leur faire des avances. Et au lieu de ça, il les a cabrés. Et ça a été toute la tragédie de son septennat qui a abouti à la séparation de Chirac qui est parti en 76 et ils étaient devenus des ennemis irréductibles.
Personne ne vous racontera cette partie de l'histoire de la Ve République comme Catherine Ney, je tiens à le souligner. Valéry Giscard d'Estaing, c'était aussi un grand Européen, y compris après son départ de l'Élysée.
Oui, d'abord, le couple franco-allemand est né avec Giscard et Schmitt, les deux chanceliers, enfin le chancelier et le président français, qui se sont bien entendus. Schmitt, c'était un socialiste, mais enfin, ils se voyaient, ils se comprenaient, et ils avaient la même idée de l'Europe, c'est-à-dire d'abord faire le système monétaire européen, sans faire une grande fédération. Il fallait que chaque pays reste, je veux dire, avec ses cultures propres. Et puis, ils ont fait élire le Parlement européen au suffrage universel, et c'est Giscard qui a obtenu de Schmitt que la première présidente, ce soit Simone Veil. Et donc, ils se sont très, très bien entendus. Ils ont fait les conseils européens. Et ça a été, et ça allait d'autant mieux que Giscard avait l'impression que le chef de file politique de cette union-là, quand l'Europe était encore à 9 pays, eh bien, c'était lui, c'était la France. Donc, voilà. Mais je veux dire, Giscard, toute sa vie, ça a été de dire centriste, libéral. et européen. Ça a été sa ligne de conduite où il a très bien réussi.
Merci Catherine Ney. Et nous allons nous rendre tout à l'heure dans le journal de 8h30 dans le Loir-et-Cher à Autun, retrouver l'envoyé spécial d'Europe 1 Jean-Sébastien Soldaini qui s'est rendu cette nuit devant la propriété de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, le lieu même où il a vécu ses dernières heures avec cette maladie du Covid-19. Jusqu'à hier soir, il avait, rappelons-le, 94 ans.
Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité, ses invités ce matin. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Valéry Giscard d'Estaing, le président et le père, raconté par son fils Louis Giscard d'Estaing en direct pour sa première réaction sur Europe 1. Et puis Valéry Giscard d'Estaing et l'aventure des jeunes giscardiens racontée par Dominique Bussereau, qui en a fait partie bien sûr.
Vous restez bien sur Europe 1, vous l'avez appris sur notre antenne hier soir. Aujourd'hui, la mort du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Il avait 94 ans, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, 8h17, en studio avec nous, Catherine Ney, Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France et giscardien de la première heure. En ligne avec vous, Sonia Mabrouk, Louis Giscard d'Estaing, le fils du président de la République.
Bonjour, Louis Giscard d'Estaing.
Bonjour, Sonia Mabrouk.
Je vous remercie de nous accorder cet entretien, de nous réserver vos premières paroles. C'est une avalanche d'hommages depuis l'annonce du décès de votre père, du président Giscard d'Estaing. C'est au président et au père, évidemment, que vous rendez hommage ce matin vous-même.
Oui, bien sûr, c'est avant tout à l'exceptionnel homme politique, à celui qui a été un des très grands présidents de la République française de cette Ve République.
Les hommages viennent de partout et beaucoup de l'international également qui vous arrivent directement.
Oui, bien sûr, parce que sa dimension internationale contribuait au rayonnement de la France, puisqu'il avait noué une relation particulière avec le président des États-Unis au moment de son élection, le président Gerald Ford, et c'est ce qui lui permet de lancer cette initiative franco-américaine, de créer ce qui va devenir le G7 et maintenant le G20, donc une instance de concertation économique au niveau mondial. Et puis bien sûr les initiatives qu'il a prises avec le chancelier Helmut Schmidt, son ami, puisqu'ils s'étaient connus comme ministre des Finances respectivement de l'Allemagne et de la France, et qu'ils ont poursuivi ensuite cette action commune au service de l'Europe.
Lui, Giscard d'Estaing, les hommages s'accordent sur un président modernisateur qui a bouleversé, changé le visage de la société française avec des réformes majeures. Ce qui est mis en avant appréhende suffisamment à vos yeux l'action politique, économique et sociale de votre père, du président ?
Écoutez, en tout cas, ce qui est aujourd'hui frappant, c'est de voir à quel point, effectivement, cette action, elle est reconnue. J'entends tous les hommages, et qu'ils viennent d'ailleurs de ceux qui l'ont accompagné, et je salue mon ami Dominique Bussereau qui est avec vous, mais j'entends aussi les mots qui viennent de ceux qui étaient des adversaires politiques et qui reconnaissent aujourd'hui l'extraordinaire qualité de son action politique, puisqu'elle touchait aussi bien la modernisation de la société française, la place des femmes, en confiant à Simone Veil un ministère de plein exercice, puis ensuite évidemment lui demandant de porter cette loi pour permettre la légalisation de l'IVG, et tout cela, mais Françoise Giroud aussi, qui fait partie de toutes ces figures féminines qui auront été une des caractéristiques de son engagement politique et de ses réformes sociétales, mais il y en a eu beaucoup d'autres sur le plan économique, sur le plan de la vie de tous les jours. Je pense à des réformes qui ont été telles que la loi Scrivener sur la consommation, c'est des choses qui existent toujours encore.
Oui. Et lui, Giscard d'Estaing, des réformes là que vous citez, peut-être un peu moins connues que d'autres, mais qui ont un impact quotidien sur nous. Vous venez de parler de l'engagement du président de votre père et de ceux qui l'ont accompagné, les jeunes giscardiens, toute une génération. Dominique Bussereau, effectivement, vous êtes avec nous, restez avec nous, lui, Giscard d'Estaing, vous en avez fait partie et vous avez souvent parlé de cette campagne inédite que vous avez menée auprès du Valéry Giscard d'Estaing.
La campagne de 1974, d'ailleurs Louis était encore en Bermuda, à défaut de culottes courtes, a été une campagne qui a modernisé complètement la vie publique française. Vos confrères du Parisien y font allusion ce matin. C'est l'arrivée des t-shirts, des slogans, des chanteurs, de tous les chanteurs à la mode sont autour de Giscard, Johnny, Sylvie Vartan, Charles Aznavour, Claude François, etc. C'est la première campagne moderne et c'est la première campagne de l'après 68, qui voilà, on a vécu un changement d'organisation du modèle social. Et le président Giscard d'Estaing, ministre des Finances, arrive dans cette campagne. Il incarne la modernité, il l'emporte, il devient le premier président aussi jeune de la République française.
Sans trahir des moments privés et familiaux, Louis Giscard d'Estaing, que vous disait-il, votre père, le président, de la perception des Français, de son septennat, de son bilan, de son héritage? Est-ce qu'il était inquiet de ne pas être reconnu à la hauteur du changement qu'il a impulsé?
Bon, il a indiscutablement été meurtri par le fait qu'en 1981, son action politique n'a pas permis de continuer au-delà de ce premier septennat, et sachant qu'il considérait qu'il avait encore beaucoup de choses à faire, même si le bilan et tous ses hommages le démontrent aujourd'hui, toutes ces actions politiques, il voulait les poursuivre parce qu'il pensait que la France était exposée à des vrais risques. Il y a eu les deux chocs pétroliers qu'il a dû gérer et que, évidemment, au-delà de 1981, il y avait d'autres moments de difficulté qui pouvaient nécessiter toute sa capacité de visionnaire, de gestionnaire et également de réformateur de notre pays.
Louis Giscard d'Estaing, à nos côtés, avec Dominique Bussereau, il y a Catherine Ney dans ce studio d'Europe 1. Catherine, c'est aussi une certaine idée de la France, une certaine époque, une grandeur aussi qui est affirmée sans tabou de notre pays.
Oui, il a beaucoup modernisé la France parce que d'abord il a fait ses études et il a appris le métier avec le général de Gaulle dont il s'inspirait, même s'il avait été aussi un ami adversaire. Hein. Le 8 mai, c'était une politique, une façon d'être que le général de Gaulle n'aimait pas. Mais c'est vrai qu'il est c'est un homme d'État. Il reste un des grands hommes d'État de la Ve République et il a modernisé le pays. D'ailleurs, moi je trouve que après son échec, il a peu conspiré à le faire connaître, et il aura fallu attendre plusieurs auteurs et qu'il parle et qu'il prenne du temps, et c'est vrai qu'il a été un peu oublié des Français. C'est vrai qu'on ne retient de quelquefois, on a retenu pendant longtemps plutôt les choses qui avaient impacté ce septennat, comme la mauvaise entente avec Jacques Chirac, mais aussi l'histoire du diamant, dont on voit que ça a été une opération qui a été montée par le Canard Enchaîné et Le Monde, qui a été très virulent avec lui, et qui l'a peut-être tué d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on découvre peu à peu, on l'a découvert, tout ce qu'il a été. Je crois qu'on découvre aujourd'hui Valéry Giscard d'Estaing.
C'est le cas, Dominique Bussereau?
Je pense que beaucoup de jeunes auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, ceux qui vont aujourd'hui entendre parler de la mort du président Giscard d'Estaing, ne l'ont jamais connu. Il a quitté l'Élysée il y a quasiment 40 ans. Certains d'ailleurs n'ont pas plus connu le président Mitterrand malgré la longueur de son mandat présidentiel. Et donc ils vont découvrir tout ça. Alors, ils ont quelques images. Parce que Simone Veil nous a quitté également, retour sur la loi naturellement sur l'interruption volontaire de grossesse, sur la réforme du divorce, sur beaucoup de réformes sociétales, mais ils vont redécouvrir ce qu'on entend sur votre antenne depuis ce matin, c'est-à-dire le modernisateur de la politique étrangère, et puis ce qui le rapproche fondamentalement du président de la République actuelle, et même de ses prédécesseurs, d'ailleurs aussi bien François Hollande que Nicolas Sarkozy, c'est l'extraordinaire engagement européen. Moi, j'étais étudiant à Sciences Po quand j'ai adhéré aux jeunes républicains indépendants, j'avais 18 ans, sur une affiche dans le hall de Sciences Po, on appelle la péniche, centriste, libéral, européen. Au centre, il a fait la politique au centre, 2 Français sur 3, libéral. Il était libéral sur le plan économique, tout en étant dirigiste quand il le fallait dans cette période difficile économique, et européen, et son engagement européen, c'est naturellement ce qui fait l'extrême force et l'extrême puissance de l'œuvre du président Giscard d'Estaing.
Évidemment, et cela nous ramène peut-être à des comparaisons actuelles, contemporaines. Louis Giscard d'Estaing, que pensait-il, et peut-être que vous en avez parlé, des comparaisons qui étaient faites notamment par les médias? Emmanuel Macron était souvent comparé déjà par sa jeunesse à Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que cela le flattait ou est-ce que cela le laissait peut-être un peu dubitatif?
Non, je crois que ça démontrait simplement que, effectivement, aujourd'hui, dans la vie politique, Emmanuel Macron représente cet élan de modernité que lui-même avait porté à partir de 1974 et qu'il avait apporté tout cet élan à la jeunesse, mais aussi à l'ensemble des Français à travers les réformes de société qu'il a menées. Je crois que c'est cette dimension de cette jeunesse et de cette énergie qu'il a mis au service de la modernisation de notre pays qui fait que, et c'est peut-être une bonne chose, aujourd'hui certains continuent à s'en inspirer comme modèle.
Louis Giscard d'Estaing, vous êtes maire de Chamalières, c'est important de le préciser, j'allais dire, dans la lignée, dans l'héritage. Vous êtes un élu, vous n'avez pas été nommé, c'est aussi l'héritage vous-même que vous portez, que vous incarnez à travers votre père. Je sais qu'il y tenait évidemment, que vous tenez à cela, c'est très important, c'est les institutions d'abord et c'est l'élection qui fait l'homme et le politique, ou la femme.
Oui, bien sûr, dans la création de la... De la démocratie française, de l'UDF, bien sûr, c'est l'élection qui concourt à la représentation des hommes et des femmes dans la vie politique. Et bien sûr, mon père était extrêmement respectueux du processus électoral et il l'a toujours démontré pendant tout son parcours. Et en ce qui me concerne, c'est évidemment à mon niveau ce que j'ai aussi souhaité illustrer en étant un élu à l'Assemblée nationale et également à la mairie de Chamalières.
Évidemment, et maintenant place à l'héritage, évidemment, et à l'histoire. Monsieur Giscard d'Estaing, Louis Giscard d'Estaing, un énorme merci de nous avoir réservé vos premières paroles. Et au nom de la rédaction et de la direction, évidemment, d'Europe 1, on vous présente, ainsi qu'à votre famille, nos condoléances. Bien sûr, en vous remerciant ce matin, très chaleureusement. Merci à vous. Un dernier mot, Dominique Bussereau. Et maintenant, c'est l'après. C'est à vous également. Vous avez fait partie de cette génération de jeunes giscardiens à écrire l'héritage.
La génération des jeunes giscardiens, elle a marqué la vie politique française. On a été formés par Giscard, par Michel Dornano, qu'on oublie souvent, qui était un des plus puissants auprès du président Giscard d'Estaing, par Michel Poniatowski, comme on disait tout à l'heure, et par bien d'autres. Mais c'est Jean-Pierre Raffarin, c'est son fils Henri, son fils Louis, c'est Marielle de Sarnez, c'est le maire de Deauville, Philippe Augier, c'est toute une génération, Marc-Philippe Daubresse, de députés, de sénateurs, de ministres, d'anciens ministres, qu'il a formés. Un mot simplement, ce que je souhaite, c'est que les jeunes continuent à s'engager dans la vie publique. Quand nous étions à l'époque des jeunes giscardiens, il y avait un très important mouvement des jeunesses communistes, des jeunes gaullistes, de l'UJP, des jeunes socialistes. Et aujourd'hui, tous ces mouvements de jeunes ont disparu, les partis politiques sont très faibles, et il n'y a pas de vraie démocratie sans partis politiques forts, donc un engagement des jeunes. Giscard avait compris aussi qu'une famille politique, ça s'organisait pour être réélu. Il n'a pas été réélu, mais il a organisé l'UDF, qui a joué un rôle politique très important dans les années qui ont suivi. Donc peut-être que le président Macron devrait avoir en tête que le parcours électoral local est très important. Peut-être que c'est une faiblesse pour lui, comme l'a rappelé à l'instant Louis Giscard d'Estaing. Et puis aussi que organiser, quand on est chef de l'État, un véritable système politique, c'est très important. Giscard ne l'a pas fait suffisamment. Et dans la défaite de 81, il y a peut-être une absence d'organisation du courant giscardien dans le pays. Puis aussi le fait que la droite et le centre étaient au pouvoir depuis 1958, qu'on était en 81, que ça faisait 23 ans, que la droite et le centre avaient perdu les élections cantonales de 77, municipales de 76, 77 et municipales, failli perdre législatives en 78, et qu'il y avait aussi une envie d'alternance que le président Mitterrand a alterné. Incarné, voilà. Donc c'est toute une vie qui doit en effet servir de leçon à la vie publique d'aujourd'hui.
Et merci beaucoup à vous-même, Dominique Bussereau. Ce sont vos premières paroles ce matin sur Europe 1. Merci également à Catherine. Quel plaisir, Catherine, de nous avoir accompagnés pour ce moment, cette interview sur Europe 1.
Merci Sonia Mabrouk, merci à tous. Et Dominique Bussereau le citait à l'instant. Jean-Pierre Raffarin sera l'invité de Julien Bugier ce soir à 18h. Il est 8h29.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'info à suivre, bien sûr, Hélène Zélani, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h32 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Jean Castex salue ce matin la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing, homme de progrès et de liberté dont les réformes de société restent d'une profonde actualité, dit-il. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes devant la propriété familiale d'Auton dans le Loir-et-Cher, là où l'ancien président est décédé hier soir des suites du Covid à 94 ans.
Une propriété à l'égard du village d'Auton, niché dans un petit bois et fermé par un immense portail en fer forgé, représentant une tête de cerf, une propriété que VGE ne quittait quasiment plus, confiné, discret et souriant. C'est comme cela que le décrit Laurent. Il le croise de temps en temps à la messe, mais surtout, il s'occupe parfois des arbres de l'ancien président.
C'est pas lui qui s'occupait des coupes de bois, hein. Il avait un régisseur. Par contre, quand il passait et qu'il nous voyait couper du bois, donc on ne s'attendait pas à voir M. Giscard d'Estaing dans le secteur. On s'apercevait quand il approchait que une grande personne comme ça, c'était lui. Donc on s'arrêtait puis on discutait avec lui un petit peu. Auton était un petit patelin très connu pour son ancien président. Et maintenant, on a un petit peu orphelin d'un grand personnage.
Un grand homme, dit-il, emporté par le coronavirus. Son état de santé s'est dégradé à la fin de l'été. Deux hospitalisations avant de venir vivre ses derniers instants ici, entouré des siens et uniquement de ses proches, car sa famille a fait savoir que ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité, comme un contre-pied aux autres présidents décédés.
Jean-Sébastien Soldaini en direct d'Auton. Et en raison de ce décès, Emmanuel Macron reporte de 24 heures l'interview qu'il devait donner aujourd'hui aux médias en ligne brut. En revanche, prise de parole de Jean Castex en fin de journée sur la stratégie vaccinale. La première vague pour les prioritaires, pensionnaires des EHPAD et personnels les plus vulnérables fin décembre, début janvier, le grand public au printemps. Le gouvernement devrait s'appuyer sur les généralistes. Nouveau coup de pouce en direction des secteurs les plus touchés par la crise. L'État va prendre en charge 10 jours de congés payés acquis par les salariés en chômage partiel. Mesure qui concerne les entreprises en difficulté, hôtels, restaurants, boîtes de nuit ou salles de sport. Une nouvelle jauge pour l'accueil des fidèles dans les lieux de culte. Deux sièges entre chaque personne, une rangée sur deux. Elle s'applique jusqu'à la prochaine étape du déconfinement le 15 décembre. Et puis le foot, victoire du PSG hier soir 3 sur le terrain de Manchester United. De quoi garder de bons espoirs de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour Rennes, l'aventure européenne touche à sa fin avant même de recevoir Séville en phase de groupe. Les Bretons battus 1-0 à Krasnodar en Russie sont éliminés.
Merci beaucoup Hélène Zellani. 8h35, nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo.
Et les pluies qui sont là et qui envahissent la France, alors contrairement à ce qui se passait hier, il n'y a pratiquement pas de neige, je ne vois pas de neige à basse altitude à l'heure où nous parlons, donc c'est tout à fait logique dans la mesure où la température se situe entre 1 et 8 degrés, mais 1 degré dans les secteurs où le ciel est dégagé souvent, ou en tout cas les éclaircies sont présentes, Besançon, Strasbourg, Langres, etc. Mais en les régions où les nuages sont là, les pluies sont présentes, les températures sont largement positives, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de la neige. Et la neige, il n'y en aura pas. Aujourd'hui, ce sera une journée plutôt tranquille, avec beaucoup de pluie. Des pluies qui sont continues dans bien des secteurs. Alors, vous n'aurez pas à vous abriter pendant quelques temps en disant « Tiens, il va y avoir une éclaircie, c'est pas la peine. » Les éclaircies seront peu nombreuses, mais il y aura de la pluie et des pluies qui vont de temps en temps s'estomper, mais c'est tout. Le vent sera présent également, et ce, sur toute la France, excepté près de la Méditerranée. Excepté, comme je vous disais tout à l'heure, ça se confirme sur la Franche-Comté, l'Alsace et la Corse, vous serez arrosé dans ces contrées dans le courant de la nuit prochaine. La perturbation est là, les pluies sont là et nous allons vivre avec. Et vendredi, samedi, dimanche seront des journées agitées et venteuses, un peu comme aujourd'hui. Donc nous allons vivre quelques journées, disons, assez bien arrosées, avec des températures qui ne changeront pas. 7 degrés à Nancy cet après-midi, 8 à Lille, 9 à Lyon, à Paris et Rennes, 10 à Nantes, 11 à Niort, 12 à Bordeaux, 13 à Nice et à Nice, oui, tout simplement. 14 à Marseille et à Biarritz et 15 degrés à Bastia.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 8h36 sur Europe 1, dans un instant on prend soin les uns des autres, vous le savez, avec le docteur Jimmy Mohamed. Est-ce que vous avez du mal à faire avaler des cachets, des gélules à vos enfants quand ils sont malades? On a une solution, une technique. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h38. Oh, des solutions pour vous ce matin là, les parents. Vous savez quoi, les enfants aussi qui sont peut-être en voiture en train d'aller à l'école. On monte le son et on écoute le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tous ceux qui ont du mal à avaler les comprimés de médicaments, c'est vrai que c'est fréquent, notamment chez les enfants. Mais notamment chez les enfants.
Exactement, c'est vrai que c'est plus fréquent chez les enfants et les femmes, puisqu'en fait, il semblerait que leur gorge soit un peu plus petite et que le mécanisme soit plus difficile à mettre en œuvre. Alors déjà, pour bien vous rendre compte, sachez que quand vous avalez quelque chose, un morceau de pain ou même votre salive, vous mettez en jeu plus de 25 muscles et une coordination extrêmement précise. Et donc, c'est un mécanisme qui est très complexe. Alors, certains vont adopter des stratégies pour ne pas avoir à avaler ces comprimés. Parfois, on va essayer de le cacher dans un yaourt ou dans une compote, ça peut marcher. Ou prendre des solutions alternatives comme des suppositoires ou des sirops. Sauf que tous les médicaments ne sont pas disponibles sous cette forme. Et puis, c'est pas toujours pratique. Si vous devez mettre 3 suppositoires par jour pendant 10 jours, eh bien, au bout d'un moment, on peut comprendre que ce soit un peu désagréable. Alors, 2 conseils pratiques avant de vous donner cette technique magique. La première, c'est si jamais vous préférez les sachets, ce qui est effervescent, ce qu'ils font avec d'un petit peu d'eau. Si vous avez de l'hypertension artérielle, soyez prudent parce que l'effervescent est très riche en sel. Et donc ça vous met une dose supplémentaire qui peut être nocive pour votre santé si vous avez des traitements chroniques. Et puis deuxième chose, certains ont tendance à vouloir ouvrir les petites gélules pour vider le contenu. Si vous faites ça, il y a un risque qu'on change l'absorption du médicament et que celui-ci ne soit plus plus efficace. Donc on n'ouvre pas les gélules, on essaie la technique.
On n'ouvre pas les gélules. Non, mais c'est important de le préciser, de le souligner ce matin. Je crois que vous avez, Jimmy, la technique pour réussir justement à avaler ces maudits comprimés.
Eh oui, peut-être en route pour le prix Nobel. Ce n'est pas moi qui ai découvert cette technique. Alors elle marche dans 90% des cas. C'est une étude où ils sont amusés à tester.
Attention, parce qu'on va tous tester aujourd'hui.
Exactement. Alors c'est tout simple. Vous allez dire, mais tout ça pour ça, mais oui.
Et on prend pas de gélules quand on en a pas besoin. Pardonnez-moi, je dis des bêtises en même temps, mais on vous écoute.
Allez-y. Ou un bonbon avec un petit bonbon Haribo, ça passera toujours. Alors, vous prenez votre médicament, vous le mettez sur la langue, vous prenez une gorgée d'eau que vous n'avalez pas, vous laissez l'eau dans la bouche, vous penchez la tête en avant et vous avalez l'eau. Simplement ça. Juste en penchant la tête en avant, eh bien en fait, le médicament va se retrouver à la surface et donc vous allez l'avaler directement. Et cette technique marche systématiquement.
Génial.
Alors, attention, il faut qu'un enfant soit en âge de pouvoir avaler les comprimés. Évidemment qu'il faut demander conseil à votre médecin parce que parfois on peut remplacer par autre chose. Mais si vous faites cette technique et si jamais vous devez prendre des traitements régulièrement, je pense que ça peut changer votre vie.
Mais c'est tellement simple parce que je me vois faire l'inverse. Mets la tête en arrière. Et non.
Et non.
Non. On garde la gorgée d'eau en bouche, on l'avale pas. On met la tête en avant. Le comprimé est à la surface, vous avalez. Merci Jimmy Mohamed. Là, mais franchement, je pense que les parents qui nous écoutent vous bénissent ce matin.
C'est du quotidien. C'est
Jimmy
du quotidien.
Mohamed, le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve à 15h avec Mélanie Gomez pour son rendez-vous, 8h41. Et nous retrouverons Fanny Agostini demain, bien sûr. Mais d'abord, puisqu'on parle beaucoup de Valéry Giscard d'Estaing, c'est bien normal, vous avez appris sur Europe 1 hier soir sa disparition. On l'a beaucoup comparé à Emmanuel Macron. La jeunesse, le dynamisme, le sens de la réforme. Écoutez ces conseils d'un ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, à l'actuel Emmanuel Macron. C'était l'une de ses dernières interviews, c'était sur Europe 1, il y a 2 ans, au micro de Nikos Aliagas.
C'est un pays qui est assez difficile à réformer. Et si on veut obtenir des résultats, il faut parler clairement. Il faut garder totalement son calme. La polémique interdit la réforme.
La polémique interdit la réforme. Ce matin, à 9h dans le journal, tout à l'heure, nous serons à Chamalières, petit village du Puy-de-Dôme dont il a été le maire, le fief des Giscard d'Estaing. Il est 8h41 à suivre Nicolas Canteloup et Julie. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le rappel de l'actualité.
Oui, bonjour Julie, bonjour à tous, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est, bien sûr, vous l'avez compris, la disparition du président Valéry Giscard d'Estaing. Alors, ce matin, autant vous le dire, je suis partagé, je suis déchiré ce matin. D'un côté, c'est quand même très triste de commenter la disparition de Valéry Giscard d'Estaing. Mais d'autre côté, quand même, c'est super, quand on est à la tête d'une matinale, de commenter un décès de chef d'État. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est pas non plus l'assassinat de Kennedy. Bon, partir à 94 ans, c'est vrai que c'est moins spectaculaire. Mais merci à vous quand même, monsieur le Président.
Allez, bon.
Valéry Giscard d'Estaing, on l'a dit, était président, mais il était, et c'est peut-être moins connu, était également académicien et donc immortel. Mais bon, visiblement, le côté un peu menteur des politiques a pris le dessus. Et là, c'est immortel, encore un mensonge. L'ancien président est décédé des suites du Covid. C'est donc sans doute la victime, il faut le dire, la victime la plus connue du virus. Mais attention, monsieur Giscard d'Estaing, vous n'avez pas le monopole du Covid. Au nom de la France, le Premier ministre que je suis souhaite témoigner de sa douleur et de ses condoléances suite à la tragique disparition du président d'Estaing. Et je précise que la disparition n'est pas due au vaccin. Il est dû à la Covid, mais pas au vaccin contre la Covid. Non, je vous le précise parce que je vois déjà venir les complotistes qui vont... Merci. Merci, monsieur le Premier ministre, pour cette intervention. Puisqu'on parle de vaccin et que Jimmy Mohamed, je parle sous son contrôle. Puisqu'on parle de vaccin, l'autre info ce matin, c'est le Royaume-Uni qui autorise les vaccins anti-Covid. Le gouvernement a fait savoir que la reine n'aura pas de passe-droit et ne sera pas vaccinée en priorité.
Ah bon ?
Eh oui, mais bon, elle a 94 ans quand même, pourtant, si quand t'as 94 ans et qu'en plus t'es reine, t'es pas prioritaire, c'est à se demander qui c'est qui va passer devant.
Qui va passer devant, mais c'est vrai.
Oh non, mais tranquillisez-vous, rassurez-vous, moi j'ai des infos en direct de la famille royale, toute la famille va y passer. Allons, mais bien sûr, parce que pour l'instant, les derniers à avoir été vaccinés, je tiens l'info de Windsor, c'est bien les chiens, les petits corgis de la reine qui ont été vaccinés. Mais la reine se
rassurez-vous, vacciné aussi, étoiletté aussi.
Non, arrêtez, Stéphane.
Alors, dans l'ordre du protocole, eh bien, après la reine, le prince Andrew, lui, va être castré. Oh. Oui, oui, bah, écoutez, le vétérinaire de Windsor va faire un prix de gros, il va pas faire un voyage pour rien. Et puis, on va également en profiter pour vermifuger le prince Philippe.
Oh.
Bah oui, écoutez, à 99 ans, les vers commencent à débarquer.
Arrêtez.
Voyez, on va prendre grand soin, rassurez-vous, de la famille royale.
Merci Stéphane pour toutes ces précisions. Allez, il a tenu à rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing, c'est le président de la République.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Valéry Giscard d'Estaing a longtemps été le plus jeune président de la Ve République. Et, enfin, jusqu'à moi, qui a fait beaucoup mieux, je vous rappelle, puisque j'ai quand même été élu à 39 ans, alors que lui en avait 48. En revanche, Valéry Giscard d'Estaing, a été le ministre de De Gaulle. Et ça, c'est vrai que c'est la classe. Alors que moi, j'étais le ministre de Hollande. Ça, c'est la honte.
Oh, allez. En tout cas, la France perd une immense figure politique. Tout le monde le reconnaît.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les hommages sont unanimes. Valéry Giscard d'Estaing a participé, rappelons-le, à la libération de Paris en 1945. Il a été ministre de l'économie pendant les 30 glorieuses. Européen convaincu, faut-il le rappeler, membre de l'Académie française, vous l'avez dit, mais c'était aussi un homme qui avait ses zones d'ombre.
Ah, vous voulez parler de l'affaire des diamants, bien sûr.
Non, de son amour pour l'accordéon. Pour Daniel Gilbert et pour François Bayrou, qui était son fils spirituel.
Bel hommage, effectivement.
Écoutez, pour moi, Valéry Giscard d'Estaing, puisque vous ne me demandez pas mon avis, c'était quand même le président best-of. Comme De Gaulle, il a pris des meilleurs. Comme De Gaulle, il était résistant. Comme Mitterrand, il aimait les femmes. Comme Hollande, il n'a pas pu faire de deuxième mandat. Mais peu importe, ce matin, je tiens à lui rendre hommage, car celui qui avait dit à François Mitterrand « Vous n'avez pas le monopole du cœur », en avait bien un de cœur, puisqu'il s'est malheureusement arrêté hier soir de battre. C'est important de lui rendre hommage. Voilà. Même si, pour tout vous dire, il me flingue un peu mon interview événement avec Brut.
Ah, cet après-midi, là, ça devait être à 16h, voilà, non ?
C'est reporté à demain.
Alors, une interview sur le média Brut, d'accord.
Voilà. Non, moi je dis à Valéry Giscard d'Estaing, au revoir.
Bon, allez, bah nous aussi, on vous salue, Monsieur Macron. Nicolas Sarkozy a écrit un long tweet hier soir pour rendre hommage à l'ancien président. Bonjour, Monsieur Sarkozy.
Hey, bonjour.
Oh, on vous sent déjà très ému, hein.
Oui, écoutez, comment vous dire ? Je me sens extrêmement émouvé par cette disparition. J'avais envie de rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing. Je me sens proche de lui, là, l'académicien. L'homme des lettres, c'est lui aussi, vous savez, vous l'avez dit, il est académicien, il adorait liser. Et il a écrit des tas de livres, comme moi d'ailleurs, qui écrit des livres, moins que lui des livres, mais il en a écrit des livres. Et puis surtout, je voulais le remercier.
Ah, pour son action politique.
Non, pour son décès, parce que c'est vraiment gentil de sa part, parce que ça me permet avec vous de parler d'autre chose que de mes procès, de mes écoutes et de mes emmerdes, des questions que vous avez me posées, j'en suis
mais
sûr.
Il a eu lui aussi une affaire, hein, celle des diamants de Bokassa, révélée par le Canard enchaîné, qu'il a toujours contesté, hein, mais dont les humoristes se sont beaucoup moqués.
Non mais quelle indignitude, Mme Pyjamas.
Pyjamas, maintenant.
Mais vous n'avez pas... Oui, mais comment vous êtes habillé? Non, vous n'avez pas honte. Le jour du décès, franchement, non, c'est un sujet sérieux. Le jour du décès mortel d'un ancien président, eh bien, vous se moquez. Moi, je vais exactement faire l'inverse de vous, ma Mélisse Lucette. Vous savez quoi ce matin sur votre antenne,
oui,
qui est un peu la mienne aussi. Je vais laver l'honneur de VGO au Karcher, et pas plus tard que tout de suite.
Ah bon, qu'est-ce
oui, que... Alors... Ziad.
Ah, encore lui, oh là.
Appelle-moi Ziad. Oui, Ziadou. Tu fais une petite déclaration sur l'honneur, là, sur le pouce, comme ça, là, vite fait, tu peux ?
Avec plaisir.
Voilà, le texte, en gros, c'est à propos de Giscard, t'es au courant. Bon, voilà. VGE, il a jamais touché les diamants de Bokassa, c'est le thème, ok ?
Ok, avec plaisir.
Voilà. On va, s'il vous plaît, les garçons, on va la tourner tout de suite. La lumière, le son, c'est bon. Mais branche ton micro, Andouille. Voilà. Silence, plateau, moteur, action !
Monsieur Giscard, je vous jure, il n'a jamais touché les bijoux de Bamako.
Diamant de Bokassa.
Oh merde, diamant de Bokassa.
Oui, bon, c'est pas dingue, hein, surtout la fin, là, tu t'es... Bon, mais on la garde.
Ah bah c'était un très bel hommage. Hein.
Bah écoutez, on fait ce qu'on peut.
Bah oui, bah. Merci Nicolas Sarkozy. Valéry Giscard d'Estaing n'est plus. François Hollande, vous aussi, vous vouliez lui rendre hommage.
Oui.
Bonjour, madame Julie, monsieur Billiard. Évidemment, la France perd un grand homme d'État. Je rends hommage à un défenseur de l'Europe, à l'homme qui a dépénalisé l'avortement, à celui qui a également permis aussi le divorce par consentement mutuel. C'est pratique, vous savez, pour des gens à titre personnel comme moi, tout simplement. Ça a désacralisé le mariage, ça a simplifié les ruptures. C'est un peu pour cela que je n'ai jamais pu me marier. Et je lui dois beaucoup, je veux dire financièrement, je lui dois beaucoup, parce que si on était resté au monde d'avant où on devait se marier et divorcer, les femmes m'auraient demandé un fric fou. Ben oui, c'est important, dans le concret, la vie de tous les jours, elle apporte beaucoup.
Monsieur Hollande, soyons sérieux, c'est quand même pas la seule chose qu'il vous inspire, Valéry Giscard d'Estaing.
Non, évidemment, non. Valéry Giscard d'Estaing, c'était aussi un économiste brillant. Là aussi, ça nous fait un point commun.
Oui, bien.
Les résultats économiques, les Français s'en souviendront longtemps. Ils me le disent, vous savez, quand je les croise dans la rue, ou les commentateurs disent « Votre bilan, on n'est pas prêt de l'oublier. »
Alors désormais, c'est vous le plus âgé des anciens présidents.
Oui, vous l'avez dit, c'est juste, c'est désormais à moi. Je sens le poids de la responsabilité. À moi, qu'incombe la position, la mission du vieux sage. Si certains jeunes présidents veulent des conseils, je suis dispo. Bon, en même temps, le gamin et moi, nous entendons, on va rien vous cacher, pas trop, on s'entend pas trop. Même si des ministres veulent des conseils, éventuellement, je suis dispo. Des ministres, enfin, des députés, ou des gens, enfin, même des maires, ou des gens, tout simplement, des charcutiers, des lycéens, des chefs de matinale, des pompistes, des garagistes.
Des garagistes, je l'attendais.
Des SDF. Madame Julie, vous aussi, vous voulez un conseil pour politique, même un conseil automobile ou même un conseil coiffure.
Coiffure Non, mais franchement, non, j'ai besoin de rien. Là,
bon, je me tourne vers vous, monsieur Béliard. Bon. Un conseil, non ?
Petite couleur, je sais pas.
Vous êtes sûr ? Bon, bah, écoutez, si vous en changez d'avis, vous me dites, je vous laisse.
D'accord. Oui.
Je vous laisse ma carte. C'est dommage, c'est ballot d'avoir à sa disposition comme ça le vieux sage de la République française avec vous et de ne pas en profiter.
Oui, bah écoutez, on fera peut-être appel à vous. Non, on ne voudra pas. Non, non. Merci, monsieur Hollande. Moi, je garde la carte de visite. Et puis, parlons quand même de. Ah, ça doit être le prénom alors, hein. C'est ça. Et puis, on va parler quand même de ces précisions de Jean Castex qui a annoncé des contrôles aux frontières pour empêcher les Français d'aller skier en Suisse, par exemple. On va aller à la frontière suisse voir comment ça se passe. Nelson Montfort, vous êtes sur place, racontez-nous.
Oui, bonjour, ma chère Julie, mon cher Mathieu, ici à la frontière suisse, petit embouteillage, car les gendarmes contrôlent toutes les voitures pour vérifier qu'il n'y a pas de ski caché dans la boîte à gants. Je m'approche d'un automobiliste. Bonjour, monsieur, pardonnez-moi, votre identité, comment vous appelez-vous, si je peux me permettre?
Bonjour, je m'appelle Patrick Balkany.
Et donc, vous allez en Suisse pour faire du ski, je suppose?
Non, pas du tout. Non, non, alors là, ce truc-là, on ne pourra pas me le coller sur le dos. Non, je viens pas du tout pour des vacances.
Pourtant, je vois une vingtaine de sacs de sport sur le siège arrière et quelques grosses valises.
Bon, attendez, ne regardez pas, touchez avec les yeux, c'est pas à vous, hein. C'est pas des affaires de ski, c'est du linge sale que je vais mettre à la blanchisserie. Voilà, la blanchisserie. Bon, avec tout ça, je sais plus où je dois aller, moi. Isabelle, t'as la carte routière, là, allez, on dégage.
Attends, oui, à la prochaine, tu tournes à gauche, voilà, tu dépasses le Crédit Suisse, tu contournes HSBC,
okay.
Et la Banque Populaire de Genève, voilà, ce sera un bâtiment avec marqué, en principe, Crédit Lessiveur. Mais chérie, dépêche-toi, allons. Bon, écoutez, si vous êtes pressés, je vous laisse profiter de votre séjour, messieurs, dames, bref. Vous voyez, ma chère Jim, cher Mathieu, cher Laurent, personne ne triche à l'image du couple Balkany, les gens respectent strictement les règles, à vous les studios, à vous Paris.
Et bravo. Bravo Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse qu'a retrouvée à réécouter sur Europe1.fr. Saluons Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas. 8h57 sur Europe 1. Il est avec nous, Philippe Vandel, Culture Média, la matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Mathieu. Nous, on va continuer à rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing, à parler de ce qu'il a changé dans les médias, de son rapport à l'image. On a des archives à vous faire entendre. Et on sera aussi avec Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1. Notre info média du jour, c'est le dossier qui fait paniquer le foot français. Le dossier Mediapro, ils ont plus que deux jours pour payer les 172 millions. On sera avec un économiste du sport, Christophe Le Petit, et Jean-François Pérès, le patron des sports d'Europe. Au sommaire également, l'édition 2020 du Téléthon qu'organise pour la première fois une grande tombola avec une centaine d'artistes. On mettait 10 balles pour gagner des œuvres qui valent 62 000 euros. On sera avec l'une des marraines de l'événement, c'est Laura Tenoudji, et le réalisateur des émissions, parce qu'il y en a plein, Tristan Carnet. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le compositeur et pianiste canadien Chilly Gonzalez,
oui.
Un type complètement dingue qui joue en pantoufles, en robe de chambre. Il sort un album de reprise de chansons de Noël, après avoir bossé avec
Chilly Gonzalez,
ouais,
qui chante Noël.
Il sera ici.
Pourquoi pas ? Ça s'est beaucoup fait dans le temps.
Hein. Oui, mais là,
c'est Noël. Philippe Gonzalez, oh, mais là c'est réussi. Philippe Vandel, Culture Média, la matinée continue sur Europe 1. Jusqu'à 11h, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.